S'ils veulent une ville fantôme, ben c'est ce qu'ils vont avoir. On peut faire autrement. Faites-nous confiance et ne prenez pas des décisions qui nuisent à tout le monde.
Bar fermé à minuit et demi, pas plus de 10 personnes dans les parcs et sur les plages. Nice passe à son tour en mode lutte renforcée contre le Covid.
Nous aurons bien des tests salivaires en France. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert, mais pas pour tout le monde.
Se battre, se battre, se battre, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Sa réponse à Édouard Philippe pour combattre la crise sanitaire, économique et peut-être sociale.
L'épidémie n'empêche pas certains de boire un verre pour la fête des voisins ce soir. Nous serons dans le 17e arrondissement de Paris.
Et puis Christophe Maé, Youssou N'Dour, Yann Arthus Bertrand, trois artistes réunis pour un même single pour le climat.
La tendance météo avec Anissa.
Et vigilance orange aux orages pour l'Hérault. Attention, dans les prochaines heures, il va pleuvoir très fort dans le sud. Des pluies qui pourraient atteindre 3 semaines de précipitations en 24 heures. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nous aurons donc bien des tests salivaires en France. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Tests salivaires, on comprend bien le principe. Mais vous nous dites, Anne Le Gall, que ce ne sera pas pour tout le monde.
Voilà, c'est un feu vert seulement pour les personnes qui présentent des symptômes et qui supportent mal l'écouvillon dans le nez. Ces personnes, ce sont notamment les personnes très âgées, celles qui sont atteintes de troubles psychiques ou les enfants. Ces restrictions s'expliquent par une moins bonne fiabilité du test salivaire par rapport au test PCR de référence, explique le professeur Dominique Le Guludec. Elle préside le collège de la Haute Autorité de Santé et c'est aussi pour cela que ces tests ne sont pas validés pour les personnes asymptomatiques.
Les performances de ces tests ne sont pas suffisantes pour les utiliser en dépistage chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Parce que chez ces personnes, nous raterions 3 malades sur 4. Le taux d'erreur serait de plus de 75%.
Voilà. En revanche, pour les enfants ayant le nez qui coule ou les personnes âgées présentant des symptômes, le geste sera plus simple désormais. Il suffira de cracher dans un tube lors d'une visite chez le médecin ou chez soi, puis de déposer ce test en laboratoire. En cas de résultat positif, le patient devrait être averti en 24 heures. La HAS a aussi donné son feu vert pour le remboursement de ces tests. L'assurance maladie va trancher dans les jours qui viennent.
Merci Yann Le Gall, spécialiste santé d'Europe.
Les restrictions locales se poursuivent pour éviter la propagation du virus. Aujourd'hui, c'est la ville de Nice qui annonçait de nouvelles restrictions.
Pas plus de 1000 personnes pour les grands événements avec prise de température à l'entrée, 10 personnes maximum ensemble dans les parcs, jardins et les plages de la ville.
Et fermeture des bars à minuit et demi, réaction du président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie à Nice, Noël Ajoury.
Monsieur le président, monsieur Macron nous a annoncé il y a quelques jours, le virus on le connaît maintenant, on va vivre avec. Et hier, M. Véran nous annonce autre chose. Il demande au préfet de reprendre encore des nouvelles dispositions. C'est ce qu'il a fait, M. le préfet, aujourd'hui, à savoir fermeture à 00h30. La semaine dernière, c'était 1h. Aujourd'hui, 00h30. Demain, je ne sais pas. On dort avec une disposition, on se lève avec une autre. On ne comprend rien. S'ils veulent une ville fantôme, mais c'est ce qu'ils vont avoir. On peut faire autrement. Faites-nous confiance et ne prenez pas pitié, ne prenez pas des décisions comme ça qui nuisent à tout le monde, à la profession et à des villes comme Nice ou comme Marseille demain ou comme Lyon après-demain, je ne sais pas.
Le président de l'UMI Nice Côte d'Azur, Noël Ajoury, au micro de Frédéric Michel. À Lyon, justement, où de nouvelles restrictions devraient être présentées également au gouvernement d'ici demain et sans doute aux Lyonnais à partir de lundi.
Les conséquences de cette reprise de l'épidémie face à la crise du Covid, les journées du patrimoine ont été annulées dans certaines villes ce week-end. C'est le cas à Lille, Bordeaux ou encore à Ajaccio.
À Paris, elles sont maintenues, mais avec des jauges limitées. Ce sera le cas à l'Élysée, pas plus de 2500 visiteurs par jour. C'était 10 000 l'an dernier.
Et avant d'ouvrir les portes du palais présidentiel demain, Emmanuel Macron est allé promouvoir notre patrimoine aujourd'hui à Condom dans le Gers, à l'hôtel de Polignac. C'est l'un des premiers bâtiments à avoir bénéficié du fameux loto du patrimoine.
Mais il a beaucoup été question, bien sûr, de l'épidémie de Covid et de la crise économique. Hier, Édouard Philippe prédisait une tempête économique, sanitaire, peut-être sociale. Notre journaliste Adrien Beck a demandé sa réponse au chef de l'État.
Partout où nous pouvons nous battre, nous nous battons. Et le gouvernement, aux côtés des élus locaux, des salariés, se bat pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune fatalité, aucune entreprise ou investisseur qui n'utilise le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte. La difficulté est là, nous le savons. Et il ne s'agit ni d'être catastrophiste, ni d'être angélique, mais de se battre. Nous battre. Nous battre. Nous battre. pour tous nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de perdre leur travail ou parfois dans le désarroi quand ils l'ont perdu, pour leurs familles, pour leurs enfants, nous battre pour eux et avec eux.
Voilà, se battre trois fois, dit le président de la République, éviter donc que des entreprises utilisent l'argument, le contexte du Covid pour licencier. On entend beaucoup de belles paroles ces derniers jours, Olivier Samin, en particulier évidemment depuis l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Mais concrètement, quels sont les moyens d'action de l'exécutif?
Alors il y a le dispositif de l'activité partielle de longue durée que l'exécutif présente comme le bouclier anti-licenciement. Le principe, vous le connaissez, pendant une durée qui peut aller jusqu'à 24 mois, une entreprise confrontée à une baisse durable de son chiffre d'affaires peut réduire le temps de travail de ses salariés jusqu'à 40% pendant une période qui peut s'étaler sur 2 ans. Et pendant ce temps-là, les salariés continuent à toucher leur salaire presque intégralement grâce à une aide financière que l'État verse à l'employeur. Le gouvernement mise beaucoup sur ce levier mis en place dans le plan de relance. Au début de la semaine, Jean Castex a mis la pression sur les entreprises et sur les branches pour qu'elles se saisissent sans tarder et massivement de cet outil en négociant des accords avec les syndicats. Pour le moment, 2 accords de branche seulement ont été conclus, d'où l'impatience de l'exécutif.
Mais au-delà de ce dispositif, Olivier, l'exécutif joue aussi de son poids politique.
Oui, des dizaines de dossiers sont surveillés comme le lait sur le feu à Bercy. Pour éviter des saignées dans les effectifs, But, sous l'impulsion du ministère de l'économie, a repris Conforama. Le gouvernement met aussi la pression sur General Electric pour réduire au maximum l'ampleur de son plan social. Idem pour Nokia, mais on le sait, ce ne sera pas suffisant pour réussir à éviter ce qui s'annonce comme une très grosse casse sociale.
Merci Olivier Samin pour ces explications.
Le groupe Suez façonne lui son bouclier face à l'offensive de Veolia. Cette fois, c'est l'intersyndicale qui appelle à une journée de mobilisation mardi. Elle souhaite alerter sur le démantèlement du groupe en cas de rachat par Veolia.
Alors, on a entendu qu'il y avait des restrictions dans un certain nombre de villes en raison du Covid. Mais là où les rassemblements restent autorisés, c'est le cas notamment à Paris, certains n'oublient pas ce soir la fête des voisins.
Avec le respect des gestes barrières, bien sûr, c'est comme ça que tous les voisins d'une même rue, la rue Gautet, ont choisi de se retrouver ce soir dans le 17e arrondissement de Paris. Vous êtes sur place, Diane Berger, et vous avez assisté aux préparatifs de cet apéro qui commence en ce moment même.
Effectivement, ici, alors que la fête des voisins s'apprête à commencer, il y a du gel hydroalcoolique sur toutes les tables et autant que possible, les convives doivent garder le masque. Loulou, la gardienne d'immeuble à l'origine de la fête, le reconnaît. Le Covid a bousculé son organisation.
Ça me réconforte de savoir qu'on a quand même 6-7 agents de sécurité qui seront là en permanence pendant toute la soirée pour sensibiliser les gens. C'est pas pour les punir ou quoi que ce soit, mais... attention, vous remettez votre masque s'ils enlèvent trop longtemps pour manger ou boire.
Les années précédentes, dans cette rue, jusqu'à 700 personnes pouvaient se retrouver ici pour la fête des voisins. Alors Nicolas, l'un des co-organisateurs, l'avoue, il a été question pendant quelques temps d'annuler la fête.
On a décidé de la maintenir parce que c'est les gens qui nous le demandent. Les gens ont besoin de cette solidarité, de la sentir, d'agir en fonction aussi et de se sentir soudés.
Sébastien acquiesce alors qu'il aide à installer les dernières tables. Lui habite ici depuis des années et Covid ou pas, il compte profiter de ce moment pour rencontrer ceux qui vivent à 2 pas de chez lui.
Ça va, on a toutes les protections là, on est en train de se parler avec un masque chacun. Ça va changer un peu, ça va faire une fête des voisins masqués, ça me gêne pas trop. J'ai l'impression que le Covid nous ramène sous le signe de la solidarité, on est tous égaux derrière nos masques.
Mais il le sait, cette année il y aura très probablement moins de monde que d'habitude et pour l'instant c'est vrai, dans la rue, alors que l'événement vient de commencer, ils ne sont qu'une 20aine.
Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, Diane Berger.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h10, la suite de votre journal avec Carole Ferry. Un homme de 36 ans a donc été mis en examen pour avoir enlevé 2 adolescentes de 11 et 17 ans.
C'était sous la menace, en Charente-Maritime, l'une le 26 août, l'autre le 11 septembre. À chaque fois, le même procédé. Il les a enlevées, droguées, puis relâchées. Et il vient d'être interpellé, Guillaume Bier.
Oui, c'est une enquête éclair qui a été menée par la police judiciaire de La Rochelle et leurs collègues de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. 5 jours seulement après le 2e enlèvement, ils ont interpellé le suspect chez lui à Royan. Un homme de 36 ans, violent, déjà connu de la police, mais pas pour des faits impliquant des mineurs. Or, c'est bien lui qui est accusé d'avoir enlevé 2 adolescentes. La première, 17 ans, à Saint-Palais-sur-Mer fin août. La deuxième, une collégienne de 11 ans à Royan la semaine dernière. À chaque fois, le même scénario. Des victimes victimes qui marchent seules dans la rue. Le prédateur les fait monter dans sa voiture sous la menace d'une arme. Il les ramène chez lui, les drogue avec des médicaments, les questionne longuement sur leur famille et finit par les déposer près de leur domicile quelques heures plus tard sans avoir commis de sévices. En perquisition dans son logement, les enquêteurs ont retrouvé les mêmes médicaments ainsi qu'un pistolet factice et dans son ordinateur, des images pédopornographiques. En garde à vue, cet homme a reconnu les faits. Son mobile n'est pas clair, ses explications sont encore confuses. Il a été mis en examen et incarcéré hier soir.
Merci Guillaume Bier.
Dans l'actualité également, Gaël Monfils, victime d'insultes racistes.
Tout a commencé après sa défaite au Master de Rome. Certains semblent ne pas avoir du tout apprécié. Le tennisman français a immédiatement reçu une kyrielle d'insultes sur les réseaux sociaux.
Parmi ces insultes, Cyril de la Morinerie, beaucoup étaient à caractère raciste.
Oui, Gaël Monfils a publié sur Instagram une série de messages qu'il avait reçus en prévenant d'abord ses abonnés, je cite « Attention aux yeux ». Ensuite, c'est en effet un déluge d'insultes à caractère raciste, faisant donc essentiellement référence à sa couleur de peau. Singe noir, idiot, bâtard noir, esclave, etc. Le français de 34 ans répond avec humour « Malheureusement, j'étais à fond, mais très nul. » Et de conclure « Pas une belle soirée, mais j'espère revenir plus fort. » Et là, sur les réseaux sociaux, cela arrive fréquemment. D'autres joueurs et joueuses de tennis ont été récemment la cible d'attaques virulentes. Très souvent, ce sont des parieurs frustrés qui se déchaînent en cas de défaite du joueur sur lequel ils avaient misé. Gaël Monfils faisait son retour à Rome après 6 matchs sans jouer en raison du coronavirus. Le Parisien est éliminé en Italie par un joueur issu des qualifications et cela à 10 jours de Roland-Garros. Gaël Monfils espère participer au Grand Chelem français, contrairement à Joe Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, qui eux ont déclaré forfait.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Enfin, Christophe Maé, Youssou N'Dour, Yann Arthus Bertrand réunis autour d'une même chanson. Elle sort aujourd'hui. L'ours, l'un a écrit, l'autre a posé sa voix, le dernier a réalisé le clip. Une collaboration qui n'a rien d'anonyme puisqu'il est question de climat, comme l'a confié Christophe Maé à Angèle Châtelier.
Ça fait quelques années que je me traîne ce texte, l'histoire de cet ours qui dérive sur un bout de glaçon. Et puis pendant le confinement, il m'est venu l'idée de l'emmener en Afrique. Donc je le fais délirer complètement, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique, j'entends des voix venues d'Afrique.
Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure.
Et donc voilà, me vient assez naturellement en fait la mélodie africaine. Et puis là j'appelle Youssou N'Dour. C'est quelqu'un que j'avais croisé déjà auparavant, entre autres à la COP22. On avait partagé la scène ensemble. On parle du réchauffement climatique forcément. Et j'évoque aussi à travers cette chanson, il y a un côté très humaniste quoi. De mélanger ma variété française à la musique africaine, j'en rêvais.
Voilà, Christophe Maé, c'était le journal de Carole Ferry. Merci Carole. La météo avec vous, Anissa.
Avec un vrai changement de temps pour demain. Pour demain et les jours qui suivent. Hein,
vigilance, il y a du mauvais temps qui arrive, des nuages.
Vous avez prévenu, je vous avais dit week-end pourri, vous étiez là hier, vous en souvenez. Bon, bah, je ne mens pas. Après cet été qui a duré plusieurs semaines, eh bien demain, le ciel va se couvrir sur les Pyrénées, l'Occitanie, avec des averses dès le début de journée. Et puis, dans l'après-midi, ces averses vont prendre un caractère orageux, des orages forts accompagnés de vents violents, des orages qui vont toucher dans l'après-midi le Poitou-Charente, l'Auvergne, la vallée du Rhône, le bassin méditerranéen et particulièrement les Cévennes. Justement, on va s'arrêter sur les Cévennes puisque demain, dès 10h du matin, Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange parce que sur les Cévennes, on attend 2 à 3 semaines de pluie en 24 heures, des vents forts, de la grêle. Bref, c'est un épisode cévenol assez violent, effectivement. Vous voulez que je termine quand même par
J'aimerais bien,
du bien.
S'il vous plaît. Bon. Enfin, si tout ça se vérifie dans les faits, parce que si c'est pour raconter des salades, c'est pas la peine.
Eh bien, vous vérifierez, puis on en reparlera lundi, mais au défi. Demain, donc, au nord de la Seine, là, c'est là où le temps sera le plus sympa, effectivement, de la région parisienne jusqu'à l'Alsace. Le soleil sera là, quelquefois voilé, mais il sera là.
On vous sent hésitante quand même.
Non mais vous me faites peur surtout. J'ai la pression.
Bon week-end Anissa.
Bon week-end.
Merci.